Attention, ce programme est susceptible de décrire en termes choisis des relations entre adultes consentants. Dans cette release, slide à gauche pour rejeter, slide à droite pour tenter, une soirée au bar et une nuit à verrou fermé. L'équipe aujourd'hui est composée de Daskrich, Pia Pandelakis et Anthony Mazur pour une spéciale Killed by App. Et j'espère que tout le monde a mis son smartphone pour vibreur, sur le vibreur, oui. Non, je ne veux pas savoir où c'est que vous l'avez mis. Non, ça je veux pas, allez hop, c'est parti. Eh ben, bonjour Pia.
Salut.
Pour une fois, j'ai pas trébuché sur ton nom pendant le générique.
Ah, je suis hyper content. On avance.
On avance. Bonjour Anthony.
Salut Xavier.
Je te vois pas, t'es derrière moi.
Eh ouais.
Ouais, bon, enfin bon, ce serait un peu compliqué, mais de toute façon, on s'en fiche. La position, c'est ce qui vient après ce que l'on va parler maintenant. Parce que, bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui en es encore à essayer de comprendre cette histoire de miel, d'abeilles, d'emprunt pour le mariage et d'allocation familiale. Un homme, une femme, ou deux hommes, ou deux femmes... Ouais, non, pardon, je reprends. L'écriture inclusive rend parfois confuse la lecture de mes textes. Un résultat sur mes copies que j'ai bûchées, je trébuche. Bon, plouf, plouf, je reprends. L'être humain est fait pour être aimé. Mais il y a des fois où il se sent seul. Terriblement seul. Soit parce qu'il est gardien de phare, soit parce qu'il n'y a plus de dialogue dans son nid conjugal, soit parce qu'il est d'une timidité tellement maladive qu'à 30 ans, il est toujours plus sot. Ouais, bon, ça va, dans le fond, on se calme, hein, je parlais pas de moi. Hein. Bref, c'est dans cette solitude et après avoir essayé de payer des coups à des inconnus dans les bars qu'on en vient aux dernières extrémités. Non, pas demander à sa mère de vous présenter quelqu'un. Ça jamais, je vous conseille vraiment pas. Non, de faire appel à une application d'aide à la conception de relations amoureuses. Mais pourquoi requérir un site de rencontre? Après tout, on a plus la chance de tomber sur des frustrés ou des gens très inquiétants que sur la chevalière ou le prince charmant. Eh bien, il y a cette volonté de croire que les gens isolés, il y en a forcément près de chez toi, dans ton département. Oui, alors dit comme ça, on dirait une publicité douteuse pour un service adulte sur un site internet qui revend du trafic de Divix, mais je le fais un petit peu exprès aussi. Encore plus surprenant, peu de gens savent que les services de rencontre utilisent de faux profils pour donner cette impression de profusion de solitude, pour compléter leur catalogue, voire recours à des robots de dialogue qui simulent un début de conversation. Une stratégie d'hameçonnage aussi déceptive qu'une poupée gonflable. Et je sais aussi reconnaître ce genre de procédé que l'on m'a demandé d'écrire des centaines de robots pour certains sites spécialisés. Car oui, entre autres crimes contre l'humanité, ton humble serviteur a été aussi pornographe patenté. Même pas besoin de chatbot supposé intelligent, il suffit d'enchaîner trois phrases bateau dont la réponse n'entraînera pas de conséquences. Tiens, un exemple. Tu pinges une super nana et tu commences la conversation. Bonjour.
Bonjour toi. Quel est ton prénom ?
Jacques.
C'est joli. Tu es dans quel coin ?
À Fleury-Mérogis, je suis pensionnaire en pension complète.
Ah ben c'est amusant, je ne suis pas loin. Tu vas dans quel bar d'habitude ?
Et à partir de là, le robot ayant débité les trois réponses bateau préprogrammées, le système switch vers une opératrice qui va prendre la suite. Une opératrice appelée Robert, qui fait ça sur le temps libre de ses études. Oui, j'ai aussi fait ça en travail d'été pour un service de Minitel Rose. Et la patronne m'a appris à faire très attention aux accords de genre, car c'est là que le Robert se trahit et en perd ses Robert proéminents. Et d'ailleurs, il se trouve que mes patrons m'avaient demandé de tester le site de rencontre Mythique avant son lancement en 2002. Dans le secteur, on appelle ça de la veille concurrentielle. J'avais noté un nombre de questions personnelles assez important et assez indiscret, allant chercher dans des habitudes alimentaires, au sport, jusqu'à une description physique décrivant la personne recherchée pour ses relations. Oui, quand il est question de trouver une âme sœur, on a la surprenante tendance à trop en dire sur soi-même. Par espoir ou par désespoir. Parce que le hasard vaut finalement moins qu'une stricte procédure de recrutement. Bon, j'espère que depuis, les gens sont plus prudents. Sinon, cela veut dire que nous n'organisons pas assez de crypto-parties. Enfant du futur immédiat, si avant on comptait sur ses amis pour vous présenter une potentielle âme sœur, de nos jours, la position de l'entremetteuse est désormais tenue par une application, ce qui incite sûrement à découvrir des personnes qu'on n'aurait jamais abordées, et les surprises peuvent être positives. Personnellement, mon amour à moi, nous nous sommes connus et rencontrés à une réunion de blogueurs. Internet. Love at First Sight, je suis pas le seul à être intoxiqué à cette chanson, loin de là. Extrait de l'album Fever de mémoire qui était sorti en 2001, donc quand j'ai testé Mythic. Vous vous souveniez pas, vous, du bouquin Jeunix et Mythic qui expliquait comment pécho rapidement et tout, non. Vous écoutez Radio FMR, c'est CPU.
style.
Avec Pia et Anthony, donc, pour Kill by App.
Kill by App, un podcast présenté par Anthony Mazur et Pia Pandelakis.
On avait parlé dans la dernière émission, la 2, des assistants personnels dans l'ère de Jarvis. Alors, on va repartir de ça, de la caméra Amazon Echo Look, rappelez-vous, qui donc est cet objet connecté qui permet de donner une note automatiquement à une personne munie de vêtements, enfin c'est mieux, et donc qui permet de noter l'attractivité de cette personne. Et donc on est déjà dans cette histoire, dans l'attractivité, en tout cas dans le rapport à l'autre, et c'est pour ça qu'on va traiter dans cet épisode un peu de la suite, c'est-à-dire du rapport des algorithmes au désir.
Oui, en effet, Amazon Echo Look n'est qu'un des éléments qui existent, qui sont autour de cette question de l'attractivité et de la beauté. On a cette catégorie des beauty apps, pour parler anglais, vous allez voir, on va utiliser énormément d'anglicismes aujourd'hui. Tout simplement, ce sont des applications qui sont là pour juger de la beauté, donc Instagram, Modiface, tout ça, ça permet de modifier les selfies, de changer les traits du visage. Il peut y avoir un effet anti-âge, ça permet d'ajouter du maquillage, de changer la couleur de ses cheveux ou que sais-je. Et de manière quasiment miroir, on a des applis comme Golden Beauty Meter ou Pretty Scale. Donc ce sont des applications qui ne se revendiquent pas grand-chose à part d'être des applications de divertissement, mais qui proposent quand même cette idée que l'application de smartphone est capable d'émettre un jugement sur votre attractivité.
Enfin, tu dis que c'est des algorithmes, des applications qui font ça tout seul, mais c'est pas encore des petits prolétaires en Inde ou en Chine qui font ça en se faisant passer pour des bots ?
Non, j'ai plutôt l'impression que c'est un algorithme assez sommaire qui fait le boulot et qui en fait ne raconte pas grand-chose à part juste mesurer le nombre d'or dans ton visage. Moi, il y a un article qui m'intéresse pas mal, qui a été écrit par Anna Sophia Elias et Rosaline Gill, donc c'est des choses en recherche là, qui sont sorties cette année et qui observe vraiment de manière critique tout ce paradigme de la beauté et comment ce paradigme de la beauté dans les apps devient un paradigme de la surveillance de la beauté. Et elle parle de forme de surveillance du corps, donc pour les amateurs de philosophie, on n'est pas loin de Michel Foucault. Et puis, cette question du psychotechnologique, voilà, c'est-à-dire nos corps entrent dans cette ère du psychotechnologique et les algorithmes, au fond, gèrent, avant de gérer des interactions, gèrent d'abord, en fait, nos corps.
Bah ouais, on a parlé de Deleuze, il y a Xavier qui est là. Mais bon, en tout cas, on va parler d'algorithme du désir.
Une autre fois, peut-être.
Longtemps.
En tout cas, donc on parle d'algorithme du désir, mais en fait cette expression c'est pas de nous. On va créditer notre ami Igor Galigo qui avec sa collègue Cléo Collomb et Philippe Pais ont fait un entretien tous les trois qui est paru dans la revue Sciences du Design numéro 4 et donc qui s'appelle, on lui a piqué le titre, Les algorithmes du désir, réflexion sur le design libidinal de Tinder. Donc c'est une étude des interfaces de Tinder et des catégorisations esthétique et donc le lien au désir. Voilà, je note aussi que la revue Multitude devrait, dans un futur qu'on espère proche, faire un dossier sur ce thème-là.
C'est un peu d'autopromo en fait. Hein.
Voilà.
Donc, j'ai rien entendu.
Après Echo Look, je voulais revenir sur le roman Soft Love dont on a déjà parlé, Pierre.
Est-ce qu'on a déjà fait une conférence sans parler de ce roman ? Telle est la question.
Ouais, ça devient notre point Godwin. donc c'est ce roman dans lequel une femme d'affaires dans un futur proche a un super assistant qui donc gère toutes ses tâches au quotidien et en vient à tomber petit à petit, à force de gérer sa vie et sa vie privée, amoureux d'elle. Lui fait des crises de jalousie, note ses amants et se trouve mieux qu'elle. Et donc là-dedans, on a tout plein de considérations sanitaires, économiques et psychologiques. Et à la fin, donc, il en vient à se faire écraser par sa propriétaire sous l'effet d'une mise à jour. Et donc la mémoire numérique disparaît.
Je vais faire un peu de recherche là, ou approche de recherche. Il va peut-être falloir qu'on définisse l'algorithme.
Bon, je m'y colle. Alors, c'était aussi l'objet de ma thèse après tout, en quelque sorte, mais je vais l'emprunter à Matthew Fuller, qui a dirigé un ouvrage qui s'appelle Software Studies, et donc c'est un dictionnaire de plein de timbres relatifs à la culture numérique, et donc bon, bah, je vais à l'entrée algorithme, hein, je vais faire simple. Et donc bah, c'est une suite d'instructions destinées à atteindre un objectif, mais ce qui est important à retenir, c'est que ces instructions ne sont pas rédigées dans le langage machine, elles sont génériques, et après donc l'algorithme, une fois encodé ou en tout cas noté dans un langage informatique, devient un programme numérique. Donc là, après, il est propre à un OS ou en tout cas à une plateforme spécifique. Et puis après, bon, on a là-dessus les applications qui encapsulent des programmes, en quelque sorte, dans des plateformes propriétaires type App Store, donc avec des systèmes de censure ou en tout cas de monétisation, sauf qu'on n'a plus accès au code source.
Je suis super heureux parce que pour une fois, c'est la bonne définition du terme encodé. Quand les gens disent codage, ils ne comprennent pas qu'il s'agit de passer d'un algorithme dans un langage précis et pas de concevoir cet algorithme. Ça, c'est la programmation elle-même.
Mais on est d'accord.
Ça, c'est ça m'agace.
On est entre guides.
T'as vu, on a bossé. Hein.
Ouais, bah heureusement, on est sur Radio FMR.
Bon, alors du coup, on reprend. Anthony, ce point définitionnel étant terminé, je crois, peut-on se poser la question des apps ? Alors, comment les apps, en fait, sont l'interface de nos désirs ? Ça, c'est une première question. Et dans un modèle peut-être plus dirigiste et puis peut-être plus politisé encore, comment les apps produisent-elles nos désirs ? Sachant que même cette définition de désir, moi je tiens à le souligner, recouvre en fait beaucoup de choses. Désir de nouveauté, tout simplement, désir de sexe, pourquoi pas, désir de compagnie, souvent, pour certains, certaines, désir de fonder une famille avec un projet de vie beaucoup plus large que tout simplement le fait d'être aimé. Nous, on va vraiment prendre ce terme aujourd'hui de désir dans sa connotation la plus large, mais on verra après d'ailleurs que c'est souvent la polysémie, c'est-à-dire les multiples sens du mot désir qui font problème, bah, et ça. Le malentendu sur la nature des désirs qui va être au cœur des applications et de leurs usages.
C'est ça, les applications donc via les algorithmes juste avant visent à résoudre des objectifs ou des tâches en tout cas, mais derrière ce désir d'exécution ou de complétude, le manque revient à l'endroit du désir. C'est ça qui est intéressant, à l'endroit du rationnel. Et donc on rentre dans le vif du sujet. Donc, dans les applications de rencontre, il existe aujourd'hui une multitude, plein d'applications qui permettent la rencontre. Donc, on retrouve ce vieux mythe de l'âme sœur.
Ah oui, alors déjà en plus, moi, je ne peux pas m'empêcher de réagir. Dire la rencontre au singulier, c'est déjà très orienté. On sent qu'on est déjà dans un schéma monogame qui, le plus souvent, va être hétérosexuel, dans lequel chacun, chacune cherche sa moitié.
Ben, on a trouvé très peu d'exemples, en fait, où on peut chercher deux personnes ou s'inscrire à deux. Alors, on peut très bien hacker certaines applications en mettant des photos de couple, mais c'est pas anticipé niveau conception.
C'est en général les applications de couple échangistes, elles existent, mais elles sont complètement à part.
C'est un autre domaine. Alors bon, la plus connue aujourd'hui, en tout cas en France, c'est Tinder, qui date de 2012. Donc pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est très simple. On se voit proposer en partie, en fonction de sa position géographique, un flux de personnes, mais en fait, on les voit un par un et on peut balayer à gauche en swipe pour refuser la personne proposée ou balayer à droite pour accepter. Tinder, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus seulement une application, ça devient un podcast. Ils produisent un podcast qui s'appelle DTR, qui donc raconte des histoires plus ou moins drôles de rencontres. Et donc, comme les sites Pornhub ou même le... dans notre registre peut-être, la boisson Red Bull, ça devient finalement un groupe média, alors qu'à la base c'était pas du tout le cas.
Ouais, alors du coup moi je vais faire un peu de journalisme gonzo, mais avant de rentrer là-dedans, j'aimerais noter qu'on appelle ces apps des dating apps, donc encore une fois un anglicisme. En France on date pas, hein. Ce concept du date il est très américain, on le voit débarquer aujourd'hui, mais moi je l'ai vu évoluer à titre personnel. Il y a 15 ans on disait pas qu'on datait, hein. Avoir un date c'est vraiment une intégration assez récente dans le langage français. Mais du coup je vais parler de mon expérience. Alors moi j'ai été inscrit 24 heures sur Mythic il y a quelques années, je me suis désinscrit parce que je trouvais ça vraiment horrible. Par la suite, j'ai été inscrite de nouveau 24 heures sur Tinder dans les Balkans. Désinscription de nouveau. Et pour le bien fondé de cette émission et avoir un peu plus de billes, je me suis dit que j'allais me réinscrire.
C'est bien, moi je ne l'ai pas fait.
Ouais, bah, en même temps, toi tu es en couple. Remarque, il y a des gens en couple sur Tinder. Mais,
non,
passons.
Mais je devais faire Grindr et puis non.
Ouais, bah, c'est vrai que ça aurait été formidable en termes de Grindr, enfin en termes pardon, de gonzo journalisme. J'ai vu le premier écueil lors de mon inscription sur Tinder. Tout simplement, bah, dans les premières phases de l'application, on m'a proposé homme ou femme. Alors, bien embêté, étant assigné femme à la naissance, j'ai pris femme. Enfin, ça ne m'allait que très moyennement. Plus tard, j'ai réussi à m'inscrire comme genderqueer, mais c'est des choses sur lesquelles on reviendra. Et une chose qui est intéressante, c'est que l'appli m'ayant comprise comme femme de 33 ans m'a tout de suite mis avec des hommes de 23 à 43, parce qu'apparemment, par défaut, l'application m'a suggéré ça. Bon, je reviendrai plus avant sur cette expérience, quelques conversations intéressantes, je me suis fait ghoster, on expliquera ce que ça veut dire. Je suis assez contente de n'avoir ghosté personne moi-même, et quelques super likes accidentels, parce qu'avec la chaleur, mes doigts gonflent et bon, j'ai fait n'importe quoi.
Tu parles de Tinder, mais c'est qu'une app parmi une autre galaxie de plein de trucs, et bon, je crois que je vais devoir me coller une liste à l'Amazon comme au dernier épisode, et donc je vais tenter de dater le dating, enfin de donner des dates. Alors je m'y colle, enfin
bah, donc là tu commences, vas-y. Bah, je fais OkCupid, tu fais Ashley Madison.
Date ça.
Ok Cupid, j'avoue que j'ai pas d'expérience directe. J'ai une connaissance qui s'est mariée et qui m'a dit mais ça marche très bien, tout le monde doit le faire. Ok Cupid, d'après ce que j'en comprends, ça fonctionne sur le principe du QCM, c'est-à-dire que vous répondez à une suite de questions très 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 exhaustives, et puis il y a cette idée que ce système de critères assez fins va faire mouche. Donc on répond à beaucoup de questions et on obtient un pourcentage de compatibilité, et on obtient si jamais le fameux match, encore un anglicisme, le match ça veut dire qu'il y a compatibilité entre deux profils.
On verra que ce modèle
profils.
Est très présent dans d'autres programmes.
Ok, alors il y a aussi Gliden, mais alors Gliden c'est plutôt pour les personnes en couple, c'est plutôt pour toi Anthony, si tu cherches une expérience.
Alors ouais, je ne l'ai pas testé, c'est de 2009, donc c'est un site de rencontre en tout cas, avec le logo à la pomme, mais j'ai switché sur Mac, donc ça me va les pommes. Mais ouais, je ne suis pas trop séduit par l'imagerie, je trouve ça assez ringard, je préfère parler d'Ashley Madison, je trouve ça plus drôle, parce qu'ils se sont fait hacker en juillet 2015, donc c'est le même principe, hein, vous inscrivez...
Attends, Ashley Madison, c'est surtout c'est pour cheater son couple.
Mais comme Gliden.
Mais Gliden aussi. C'est
payant de se désinscrire de Ashley Madison. Et toute l'histoire du piratage, c'est qu'ils ont gardé tous ceux qui s'étaient soi-disant désinscrits.
Alors, on rappelle pour nos auditeurs, donc ils reçoivent une demande de rançon, évidemment, ils ne donnent pas suite. Et donc, la liste de tous les contacts et je crois du chat aussi. Enfin, en tout cas, bon. En tout cas, au moins les emails se voient mis en ligne en téléchargement. Et dedans, il y avait plein d'adresses mail de personnes dans les gouvernements, .gov, .fr, .us ou je ne sais quoi. Donc, les gens allaient là-dessus au travail. Après tout, c'est assez logique, vu la cible. Mythique, un peu plus vieux, c'est vrai qu'on l'avait oublié, mais quand même. Le papa. En fait, c'est pas le papa. Il y avait Match.com avant, donc on revient à cette histoire de compatibilité en 95. C'est un peu compliqué l'histoire économique. Apparemment, il rachète à Match.com, donc Mythic rachète à Match.com, Mythic lancé en 2001 les filiales européennes et se voit lui-même racheté par Match en 2011. Ouais, c'était fondé par Marc Simoncini et je crois coté en bourse.
C'est Marc Simoncini, c'était le fondateur d'iFrance et en fait au départ c'était un échange d'actions entre les deux.
C'est parfait.
Après Mythic est un peu tombé en désuétude, si je me rappelle bien, je ne saurais pas le dater, mais ça s'est fait au profit.
C'est avec le mobile qu'ils ont perdu la vitesse.
Ça s'est fait au profit d'une autre application. Enfin alors là je parle vraiment de mon entourage social, hein. C'est pareil, c'est très orienté en termes socio-culturels. L'application pour laquelle beaucoup de monde jurait à une époque, c'était Adopte un mec.
Ça je connais, j'avais testé.
T'avais testé Adopte un mec. Moi je déteste le nom de l'appli qui me semble une espèce d'effort de post-féminisme absolument raté. Les femmes se font objectifier. Hey, on va objectifier les mecs aussi. Donc apparemment ça sera ça l'égalité. Non là excusez-moi.
Bah, la pomme ça va, mais là l'imagerie du caddie, j'avoue, je suis pas trop dedans. Quoi.
C'est encore pire, et ça présuppose encore une fois des désirs, puisque quand on dit adopte un mec, il y a encore l'idée que derrière ce adopte un mec, il y a une nana, donc on est encore en plein dans l'hétéronorme.
Ils ont fait très fort point de vue com, parce qu'ils avaient fait des images, des pubs télé très 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 léchées, où il n'y avait même plus le nom, il y avait juste le logo à la fin. Et d'un autre côté, ils faisaient des pubs assez hardcore quand même, dans la presse et dans l'affichage. Donc il jouait énormément sur cette dualité.
J'accélère sur la liste. Hot or not hot, alors c'est l'ancêtre de Tinder, je boucle. Ils ont essayé de faire un reboot en 2014, mais ça n'a pas trop marché. Il y a aussi Badou, mais bon, j'en peux plus là, des applications.
Et il y a des applications très sélectives aussi, c'est intéressant. Raya, par exemple, c'est un peu le Skull and Bones de l'app de rencontre. Vous ne pouvez vous enregistrer que si vous connaissez quelqu'un qui vous envoie une invite perso.
Bon, il y a aussi évidemment tout ce qui est niche, alors niche religieuse ou ethnique ou raciale. J'ai un ami qui a trouvé l'âme sœur sur rencontrechrétienne.com, il s'est marié au bout d'un an, donc a priori ça marche. Ce qui est intéressant, l'application est assez clean, niveau éthique, elle ne te réengage pas automatiquement au bout d'un mois, donc voilà.
Et on n'a pas parlé de fétichisme étrange, moi je ne peux pas m'empêcher de citer au moins deux exemples. Le premier, Gluten Free Singles, ça c'est pour les célibataires qui cherchent des gens qui ne mangent pas de gluten, donc c'est quand même assez ciblé. Et pour la minute marxiste, mon chouchou, c'est Luxi, c'est l'appli pour les 1%, donc les 1%. Avec l'accroche, je vais être obligée de la dire en anglais parce que je la trouve juste géniale. Tinder minus the poor people. Tinder sans les gens pauvres. Donc on est bien content de savoir que lorsqu'on se connecte à cette application, vraisemblablement, on n'aura pas de gens qui gagnent moins de je sais pas combien de kilos euros ou kilos dollars par an.
Bon, alors pauvre riche, on peut avoir un chien, donc pourquoi ne pas parler Tindog?
Non, pas le point puppy, Anthony. On a dit bon. Non, pas les pets.
Xavier, on ferait une émission spéciale pets, animaux, t'es prévenu.
Ouais, fini la liste là, j'en peux plus.
C'est pire qu'Amazon ce truc, j'en peux plus. Alors, vas-y.
Est-ce que tout va bien ?
Ouais, désolé, j'ai une urgence à gérer.
Oh, pas de problème. Attends, je rêve ou t'es sur l'appli ?
Ouais.
Mais c'est pas une urgence, c'est carrément foireux, ça. C'est moi ton rencard.
Ouais, si on veut... Désolé, c'est juste qu'il est que 10h et je pourrais peut-être rencontrer un autre mec après. En plus, j'aime vraiment bien sweeper. Qu'est-ce que tu penses de ce type ?
Vas-y, fais voir le reste de son profil.
Extrait de Master of None diffusé sur Netflix.
Et dans cet épisode, il est assez drôle. On voit que le personnage indien, c'est comme un flux infini, rien ne s'arrête. Il passe d'une conquête à l'autre et on est comme dans ce flux d'appli sur les App Store. On swipe.
Oui, alors c'est vrai que Aziz Ansari, qui est donc le personnage indien, mais aussi l'acteur indien qui incarne le personnage dont tu parles, est assez intéressant parce qu'il a écrit un ouvrage sur le sujet qui s'appelle Modern Romance, donc romance moderne. Et puis il arrive vraiment à pointer dans sa série des choses très très fines sur la manière dont on s'engage avec les applications, notamment cette idée de la pick-up line, c'est-à-dire cette phrase qu'on va utiliser de manière systématique parce qu'au bout de 150 matchs Tinder, on en a marre de se creuser la tête. Donc le personnage de Dev, qui est joué par Aziz Ansari, utilise toujours la même phrase de « Hey, je te prends un truc chez Whole Foods », donc Whole Foods, c'est l'équivalent de la Biocoop. Donc c'est vraiment cette contextualisation dans un univers bobo, et puis la petite pick-up line qui, en fait, au bout d'un moment, n'est même plus drôle puisqu'elle est répétée à 150 personnes différentes.
Ouais, c'est pire que ça. En fait, c'est tout un rituel qu'il a développé, toujours le même bar, les mêmes répliques, les mêmes musiques, le même décor chez lui, etc. En fait, il a transformé sa drague en algorithme. Du coup, avec tout ça, on est en plein dans l'idée reçue. Alors, on oppose le virtuel versus l'IRL, le monde réel, superficiel. Est-ce qu'il y aurait finalement eu un âge d'or des rencontres avant les applications et ça aurait tout pourri ? Je sais pas. Moi, je pense pas que ce soit si simple. Je pense qu'il n'y a jamais eu d'âge d'or. Ça a toujours été la galère de draguer ou de rencontrer des gens. Donc, il faut faire avec le numérique. Voilà ce que j'ai envie de défendre.
Alors, faire avec, oui, mais quand même une petite nuance par rapport à ça. On n'est pas tous égaux égales face à l'offre. Il faut noter aussi qu'il y a un principe de coterie ou de distinction qui existe sur Tinder. Si on swipe pas assez ou pas bien, on va tomber dans un pool, enfin dans une catégorie de gens moins attractifs.
C'est ce que nous dit Igor Galigo, hein, qu'on a cité tout à l'heure.
Et donc ça nous rappelle un peu le roman de Gary Steingart, Super triste histoire d'amour, dans lequel les gens sont constamment scotchés à un smartphone qui lui il appelle apparat. Et puis on vous donne des points et une cote de popularité, et ça enclenche un accès limité à certains services. C'est-à-dire que plus votre note tombe, moins vous avez accès à d'autres choses. On l'a vu très très bien récemment aussi dans Black Mirror.
Kraftwerk, Computer Love, extrait de l'album Computer World, où il parle donc de se connecter à ce qu'on appelle un BBS, c'est-à-dire les sites avant, quand ils étaient hébergés chacun par des ordinateurs différents, pour avoir un rendez-vous et plus ses affinités. Sauf que l'album date de 81, ils étaient bien avant le Minitel. Vous êtes sur Radio FMR et c'est l'émission CPU où donc nous avons Pia et Anthony dans Kill by App qui racontent donc leur journalisme gonzo à des fins relationnelles.
Kill by App.
Oui, avant la pause musicale, on parlait de la manière dont les applications, finalement, étaient créatrices de distinctions dans leurs algorithmes même. Mais je vais proposer ici une perspective un peu plus progressiste ou plus enthousiasmante. Au récent Sex Tech Lab de Paris, c'est Alix, une appli pour l'éducation sexuelle des adolescents, qui a été récompensée. Alors, c'est une application qui fonctionne sur la base d'un chatbot et qui permet aux adolescents et adolescentes de se renseigner sur des questions de sexe. Il faut savoir qu'elle a été renommée Speech EA, hein, comme une pêche en anglais, pour des questions d'homonymie. Je suis fort déçue parce que j'ai cherché des choses sur cette appli Speech et je ne trouve pas grand-chose, donc j'espère vraiment que ça va dépasser le cadre du hackathon.
C'est un peu compliqué à l'oral, les pêches, mais bon, c'est intéressant aussi sur le redesign de l'emoji pêche qui servait à du sexe SMS, du sexto. En tout cas, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que des étudiants du DSA Création Numérique à Estienne ont développé, ont co-organisé ce Sex Tech Lab à l'école 42, et pour leur projet de diplôme de design, ont développé un prototype de textile connecté avec Orange Labs, qui donc sert à restituer des sensations haptiques pour les relations à distance. Donc après, ça pourra peut-être devenir une plateforme d'application, au textile, pourquoi pas.
Ouais, mais ça, on se le garde pour notre spécial sexe à venir, n'est-ce pas, Xavier ?
Et on le fera la nuit, ça marche. Alors,
je voulais faire moi un lien à l'épisode 2, donc notre épisode précédent, et reparler de cette idée selon laquelle affection et service ne sont en fait jamais loin. C'est-à-dire que derrière l'amour, il y a très souvent aussi le care, c'est-à-dire le soin externalisable, placé en dehors parce qu'il est intégré à un circuit commercial. Et là, on a une invention qui est tout à fait intéressante, qui s'appelle Gatebox, spéciale dédicace à Daskritch, tu vas aimer. Donc ça se présente une boîte transparente, alors qui ressemble à une machine à café ou un soda stream, comme on veut, avec dedans un hologramme d'adolescente qui programme la maison, donc revoilà les majordomes, et qui envoie des textos, c'est-à-dire que quand vous êtes chez vous, elle programme votre maison, elle baisse les lumières, chauffe l'eau ou que sais-je, mais elle vous envoie aussi des textos quand vous n'êtes pas là, du type « tu me manques, reviens ». Et ça a été mentionné, ça je fais un petit holler au podcast Future of Sex, qui est un super podcast, voilà, on aime bien aussi faire référence à ces gens qui font, j'allais dire, ils font le même boulot que nous, c'est plutôt nous qui font le même boulot qu'eux, mais en tout cas, c'est à écouter, il y a plein de choses intéressantes. Mais du coup, sur Gatebox, en termes de design, c'est vraiment passionnant, quoi, cette machine à café qui d'un seul coup devient majordome sexy, quoi.
Ouais, entre l'hologramme de Mélenchon ou le Tamagotchi, moi j'aime bien, j'ai envie de l'acheter, c'est dommage, c'est sold out, cet hologramme de soubrette japonaise.
Ça ouais, soubrette assez... japonaise, fée clochette. Bon, je sais pas trop.
En tout cas, ça me rappelle le travail artistique des artistes Philippe Parrainot et Pierre Wig. En 99, ils avaient acheté les droits d'un avatar 3D nommé Anli, développé par l'agence japonaise K-Works, qui développe tout un tas de personnages fictifs, surtout des acteurs qui servent après à des dessins animés, des pubs ou des jeux vidéo pour l'industrie des mangas. Et avec cet avatar, après, ils l'ont fait jouer dans plein d'œuvres artistiques, des posters, des clips, des expos, etc.
Alors ça me paraît hyper high-tech, j'ai l'impression aussi qu'on est dans les imaginaires de Her, de Spike Jonze. Alors du coup, question, est-ce que c'est vraiment nouveau tout ça? Et est-ce que la médiation technique n'est pas plus ancienne que nos smartphones en fait?
Ben oui, évidemment, on n'a pas attendu la SF pour tomber amoureux d'une rencontre ou d'une app ou de quelque chose. Avant les apps, il y avait le Minitel, il y avait Krabzerk avant, etc. Mais voilà, donc il fallait quand même qu'on parle de ça, de ce qu'a fait la fortune en fait de Xavier Niel, le papa de l'opérateur Free. Donc je pense, alors c'était peut-être pas ses services directement, mais bon... On connaît tous, ou pas d'ailleurs, pour les plus jeunes auditeurs, 3615 Koum, 3615 Hula, ou encore les pages perso Migal au milieu des années 90. Tout ça a été très bien relaté dans un récent roman documentaire de Aurélien Bélanger qui s'appelle La théorie de l'information. Et on avait déjà l'idée d'un prolétariat du chat avec des opératrices qui étaient derrière les écrans pour faire fantasmer surtout des mecs. Mais en fait, on peut se demander s'ils ne fantasmaient pas également sur l'interface minimaliste. Est-ce que ce n'est pas la médiation qui était attirante?
Alors ça, c'est pour un côté historique. Moi, j'aimerais aussi qu'on saisisse la spécificité des interactions d'aujourd'hui sur deux points, moi, qui me semblent essentiels. Le premier est la rapidité. Samira Laroussi, dans un article récent d'Amuse, nous dit « Il y a quelque chose de fondamentalement non naturel ou innaturel dans le fait de trouver autant d'informations si vite sur les gens. » Et cette rapidité d'accès à la personne et aux informations sur la personne, elle participe de la construction de ce qu'on pourrait éventuellement appeler des patterns addictifs, donc des schémas d'addiction. Donc là aussi, un autre podcast, décidément, c'est la journée des références, I Want It That Way, super podcast publié par la revue Bustle. Quoique, le dernier épisode, c'était juste avant l'élection de Trump. Je crois qu'elle déprime les pauvres, elles ont arrêté de publier. Mais avant d'arrêter, ces deux journalistes absolument géniales avaient pris le pari de couper toutes leurs applications pendant un mois. Et en reflet même de ces patterns addictifs, résultat, c'est l'ennui parce qu'on arrête la stimulation, on arrête le swiping, ce geste. Alors, le swiping,
c'est l'échec de la déconnexion en fait que tu décris.
Exactement, on revient aussi à la première émission. Le swiping, pour ceux et celles qui ne voient pas du tout ce que c'est ce geste de gauche à droite ou de droite à gauche pour valider un profil ou pas. C'est des gestes très petits, très répétés, qui sont répétés d'ailleurs dans l'espoir d'une récompense. Donc, on est en plein dans l'idée de gamification. Et là, on se rend compte d'ailleurs que les jeux des millennials, s'il faut vraiment les appeler comme ça, les ont vraiment préparés à devenir de parfaits utilisateurs, utilisatrices de Tinder, etc.
On fait une coupure pub, vous écoutez Radio FMR, et il est 11h38.
Qui est amoureux de toi? Allô? Le téléphone secret, c'est un jeu électronique avec un téléphone qui parle. Pour gagner, appelle les copains, récupère tes indices et devine qui est ton amoureux.
Il aime le sport.
Qu'est-ce qu'il a dit? C'est mon secret. Alors qui c'est? C'est Yann, mon copain.
Tu as raison, je suis ton admirateur secret.
Téléphone secret, il y a toujours un amoureux au bout du fil. C'est pour toi.
Salut, c'est Laetitia. Tu veux discuter avec moi? Appelle-moi maintenant. Oh. Appelle-moi maintenant.
Oui.
Appelle-moi maintenant. Oh. Appelle-moi maintenant.
Oui.
Appelle-moi maintenant. Oh. Je t'attends.
Oui.
You used to call me on my. You used to. Yeah. You used.
used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. These days all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touching roll? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah, you should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city,
Hotline Bling de Drake, extrait de son album View, sorti en... il y a 2 ans même pas. Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz et sur le 3615 FMR, 1 franc 25 la minute et 12 centimes de francs après. Et vous écoutez CPU avec Pia et Anthony, Kid by App, où on parle de algorithme de matching.
Merci à Drake pour ce grand moment de tristesse masculine parce que sa meuf se connecte à Instagram et lui envoie pas de texto. Voilà, c'était une belle illustration musicale.
Kill by Black.
J'enchaîne en parlant des nouveaux protocoles techniques qui redéfinissent des comportements sociaux, notamment un caractère de désinhibition. Les gens disent des choses qu'ils, elles, ne feraient pas dans la vraie vie. On va pouvoir ajouter des photos, des gifs animés aussi aux conversations. Ça, c'est l'évolution de la conversation aujourd'hui, par exemple, sur e-message. Et puis, des antidotes possibles. Moi, je pense à l'artiste extraordinaire Miranda Julie, qui a fait un projet qui s'appelle Somebody, où, en fait, par exemple, si je veux envoyer un texto à Anthony, au lieu de lui envoyer directement un texto, texto. Je vais envoyer le texto à l'appli Somebody et c'est une personne, un ou une kidam, qui va venir lui crier, lui chanter ou lui pleurer mon message selon le ton que j'aurais choisi pour raconter mon message.
Moi, je suis pas sûr. Bon, on est dans le design critique, mais en vrai, déjà, la vraie vie, c'est les gens qui utilisent l'application déjà. En tout cas, il y a tout un tas de, un nouveau, en tout cas, vocabulaire comportemental généré par les applications, notamment le swipe. On le retrouve dans plein d'autres choses, dans des jeux, dans des sites e-commerce, etc. Après, est-ce que c'est généré? Je ne sais pas. Si je prends Twitter, alors qu'il n'est pas une application de rencontre, en tout cas pas faite pour ça, beaucoup de fonctions de l'application Twitter viennent d'en bas, des utilisateurs, et ça a été plus ou moins réinjecté après par l'équipe des concepteurs.
On voit en effet qu'il y a de nouveaux mots et attitudes qui apparaissent. Je ne vais pas rappeler ce qu'est le sexting, hein, une communication par SMS à caractère sexuel, qui s'accompagne parfois de ce qu'on peut appeler les dick pics. Hein, ça, c'est une pratique plutôt masculine. Hein, on prend ses génitaux en photo et on les envoie à la personne convoitée.
Question.
Pardon ?
Tu en as aussi sur Tinder ?
Non, mais après, moi, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, j'ai un profil genderqueer, je crois que ça a fait fuir quelques masculinistes enragés. Question sur les dick pics, Anthony, tu sauras peut-être, est-ce que cela fait disparaître les flasheurs ?
J'en sais rien, moi je parlais du ghosting, alors je botte en touche, je me ghoste moi-même. C'est un arrêt soudain et non expliqué de la communication, ou le fubbing, technique de l'essuie-glace. Je te fuis, tu me suis, ça marche très bien. Ça me rappelle ce que disait Proust bien avant les apps. L'absence de doute rend intolérable l'attente du plaisir infaillible, parce qu'elle fait de cette attente un accomplissement innombrable et, par la fréquence des représentations anticipées, divise le temps en tranches aussi menues que ferait l'angoisse. Donc ça, c'est à la recherche du temps perdu, tome 3, le côté de Guermantes.
Et vous ne rêvez pas, on a bien utilisé Proust pour définir le ghosting. Je ne sais pas si Proust avait dit des choses sur le thirst trap. Vraiment beaucoup d'anglicisme aujourd'hui, donc le piège à soif, hein, littéralement, qui est la pratique préférée des attention whore, donc les... Bon, attention. C'est vraiment l'idée d'avoir une image exposition de la vanité de soi. Donc c'est apparu beaucoup sur Instagram. Je vais faire un jogging, j'envoie un petit gramme sur ça, et puis je prends en photo mes super abdos tankés ou mon petit cumul moulé dans mon mini short. Et ce qui est intéressant, c'est que au-delà d'Instagram, le thirst trap, donc cette photo qui cherche l'attention et le compliment, devient un élément de branding. T'es sur une app, tu dois construire ta marque.
Bon, je suis pas trop abdos, mais éventuellement e-stalking. Donc là, c'est quand t'as un match et que tu vas voir sur le profil de la personne tous les liens où tu les cherches ailleurs, et tu fais une espèce d'archive de tout ce qui est fait ailleurs, et tu t'en sers après pour draguer ou pas. Notamment dans le magazine Le Tigre en 99, un journaliste avait rassemblé les traces d'un kidam sur Flickr, etc. Il avait reconstitué toute sa vie, ce qui avait fait flipper plein de gens. Mais encore une fois, est-ce qu'il faut blâmer les stalkers ou blâmer les victimes? C'est toujours le même débat.
Je peux en parler directement.
Il n'y avait pas un procès d'ailleurs là-dessus?
Je sais pas. En tout cas, le tigre, c'est fini.
En tout cas, c'est quelque chose qui arrive. Moi, je sais que typiquement, bon, j'ai pas eu trop de problèmes de harcèlement. Là, bon, en même temps, j'ai été 3 jours sur l'application. C'était un quick gonzo. Mais vraiment, il y a une personne, par ailleurs, tout à fait sympathique, avec qui je vais sans doute boire des verres, mais qui m'a il-stalké. Donc, il me sort tout mon CV par texto. C'est un peu violent quand même. Ce qui m'amène à des questions finalement de féminisme et de sexisme. On en a pas beaucoup parlé. Je l'ai un petit peu suggéré quand je disais qu'on n'est pas tous et toutes égaux, égales face aux applications. Et c'est vrai que le genre est quand même une entrée. Alors pour les femmes ou les personnes identifiées femmes, il y a déjà la question globale de ce qu'on peut appeler le slut shaming, donc faire honte aux p***s, hein, si pour le dire de manière fleurie, parce qu'il y a peut-être des enfants qui écoutent. C'est-à-dire que les apps peuvent accélérer les processus de slut shaming. Et alors pour faire un peu d'histoire, il faut savoir que quand Internet est arrivé progressivement, dans les milieux féministes, il y a eu une montée de ce qu'on a appelé le cyberféminisme. Pour beaucoup de femmes de l'époque activiste, l'idée qu'il y ait un cyberespace ou des espaces numériques, c'était la promesse d'un éventuel espace de liberté pour des femmes qui étaient privées de ces libertés dans les espaces publics.
Bon, je reviens à des questions plus terre à terre. Le revenge porn, alors cette pratique affreuse qui consiste à mettre des photographies de personnes avec qui on a couché sans son accord, évidemment. Les députés, enfin en tout cas les politiques ont mis beaucoup de temps à réagir. C'est qu'en janvier 2016 en France qu'un amendement est passé par la loi. Dans d'autres pays, ça se met en place aussi. Et heureusement qu'un site comme le Tac Parfait a mis en ligne tout un manuel d'autodéfense qui explique comment se désinscrire et quoi faire si sur tel site il y a des photos de nous non désirées.
Oui, alors en plus, cette question du revenge porn, elle est particulièrement sensible dans le cas des mauvaises ruptures. Et encore une fois, dans le fameux podcast Futuroxex, il y a un témoignage qui m'avait beaucoup interpellée, d'une usagère qui disait « Mais finalement, quand on vit une mauvaise rupture, donc le bad breakup, le premier réflexe, c'est finalement d'aller effacer la personne de sa vie en ligne. Le harcèlement sexiste, il serait, et beaucoup de personnes le disent, facilité par les applications. Et alors, les femmes le disent beaucoup, mais Aziz Ansari lui-même l'a dit et l'a manifesté.
Master of App.
Le Master of None ou of App, oui. Qui parle du Tumblr, qui, moi, personnellement, me fait hurler de rire. Si vous ne savez pas quoi faire, si vous avez envie de procrastiner, straight white boys texting, littéralement des hommes blancs hétéros qui textent, ça va de la phrase de drague douteuse au harcèlement sexiste, au mec qui envoie une dick pic, mais alors qu'on lui a demandé comment allait sa grand-mère. C'est vraiment n'importe quoi. J'en rigole, ça reste un problème pour les femmes. Sachant qu'il y a quand même des réactions et de l'organisation en réponse à cela, et c'est là où le design a aussi un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'on a des groupes de femmes qui s'organisent et qui créent leurs propres apps, notamment Bumble, je vais pas y arriver, où les femmes doivent écrire en premier. Voilà, si vous êtes un mec, vous pouvez pas écrire en premier. Mais ça, c'est quand même souvent le cas dans les applications. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces applis plus ouvertes, très souvent, on a un service parent qui vient gérer la question des amitiés. Donc Bumble BFF, ça permet de finalement décaler la question de la rencontre amoureuse et de faire aussi des rencontres amicales.
Oui, il y a aussi Girl Crew pour se faire des amis ES. C'est un autre système, on peut swiper quelqu'un pour l'enlever, mais par contre, du coup, la personne reste accessible pour des relations platoniques, donc on n'est plus dans le swipe binaire, ça devient plus complexe. Ou on a aussi donc Shaper, c'est le Tinder featuring LinkedIn, donc on swipe pour faire des rencontres pro. Dans les publicités, beaucoup de femmes sont mises en avant, donc j'imagine que c'est une cible potentielle pour ce service.
Moi, j'aimerais aussi parler, au-delà des questions de genre, peut-être d'une politique du queer, tiens, sujet assez intéressant. Phénomène très récent, 23 juin 2016, ça y est, Tinder a intégré à sa liste de genre, au-delà de homme ou femme, hein, jusque-là c'était les deux seuls choix qu'on avait, on a maintenant 52 choix et avec grand plaisir, je suis aujourd'hui inscrite, je vous laisse décider, non pas comme femme, mais comme genderqueer, on peut s'inscrire comme homme trans, femme trans, personne trans, il y a une multiplicité de choix très très fins qui sont accessibles et je suis pas souvent optimiste, mais je crois qu'on peut s'en féliciter.
Bon, ça sert à quoi d'avoir 52 choix ?
Bah, tout simplement, on peut cibler de façon beaucoup plus fine comment on se sent, qui on est, comment on veut s'affirmer.
Comme sur Facebook, en fait, qui est récemment passé de 58 à 71 options, c'est plutôt pas mal. On peut s'en réjouir, plus de diversité.
Quelles apps pour les queers ? Parce que malgré tout, Facebook et Tinder, c'est bien sympa, mais je crois qu'il y a encore de gros efforts à faire dans ce sens-là. Il y a une application récente qui nous vient de la communauté LGBTQIA+, qui s'appelle Gender, sans le dernier E. Malheureusement, c'est une application payante. En termes de design, pas de grosses nouveautés. On est dans ce qu'on appelle le flat, hein, donc quelque chose de très minimal, avec quand même l'idée de se réunir par communauté d'intérêt. Ça, c'est une chose que peuvent amener les communautés queer. C'est que plutôt de se rencontrer, de consommer la relation, il y a l'idée de se fédérer. Et bien souvent, on va avoir une seconde partie de l'appli qui va fonctionner en mode chatroom par communauté d'intérêt.
C'est intéressant que tu parles de ça. Finalement, quel design interface pour les apps queer ? Est-ce qu'il s'agit de mimer Tinder ou de faire autre chose ? On n'a pas trouvé beaucoup d'exemples, on a quand même trouvé Pure qui du coup remplace l'imagerie photographique assez kitsch par des illustrations évocatrices assez bien maîtrisées en mode vaporeux. Et donc en tout cas il y a un essai d'écart graphique vis-à-vis des codes et des conventions des milliers d'applications qui polluent ou pas d'ailleurs, qui encombrent les App Store.
On se rend compte aussi qu'il y a une certaine lassitude de la part des communautés hétéros vis-à-vis de Tinder. On lit beaucoup d'articles qui prédisent sa mort. Ça, il faut quand même bien se rendre compte que c'est bien une perspective hétérosexuelle. Pour beaucoup de personnes LGBTQIA+, alors je ne parle pas à leur place, hein, là je restitue ce que j'ai pu lire, mais les applications, elles peuvent permettre de rompre l'isolement, de constituer des communautés amicales dans des zones géographiques où c'est compliqué. Donc on est loin aussi du cliché de Grindr qui voudrait que les personnes gays et lesbiennes consommeraient du sexe à gogo, il y a quand même d'autres enjeux derrière. Sur les apps lesbiennes, moi je me suis penchée sur la question parce que véritablement Tinder ça me convient pas. J'ai téléchargé 6 heures, malheureusement on peut se connecter qu'avec Facebook, donc c'est la grosse déception.
Et puis, ouais, t'as quitté Facebook.
Et vraiment c'est terrible, il y a un gros bouton, connectez-vous avec Facebook. Donc là je suis bloquée, hein, je passe pas le tunnel. Et puis Her, du même nom que le film, qui fonctionne vraiment comme Tinder. Et là ça m'a vraiment dérangée, c'est qu'il y avait plein de critères hyper fins, du type genre, que cherchez-vous, quel type d'interaction, avec plein de possibilités sur le polyamour, sur l'amitié, enfin vraiment un truc très riche.
Mais en gros, il n'y a pas de choix, on n'est pas content, il y a trop de choix, on n'est pas content non plus.
Non, c'est pas ça, attends, j'y viens. C'est pas le problème, il y a trop de choix, je suis pas contente. Tous les choix sont super cool. cool. Par contre, ils sont tous payants. Et c'est bien le problème.
Bah, faut se connecter sur 3615 FMR pour faire rentrer de l'argent avec les services payants de Xavier. Bon, Pia, alors du coup, on revient à l'essentiel. C'est quoi le bilan de tes 3 journées en mode Gonzo Design sur Tinder ?
Je me suis sentie de nouveau très mal à l'aise avec le fait d'être sur une app. C'est un truc que je vis hyper mal, mode confession. J'ai eu des conversations très sympas à suivre. Voilà, là, j'ai des personnes avec qui je suis en lien. Bon, là, je suis en mode avion. Si ça se trouve, elles sont tous et toutes en train de paniquer à l'idée que je réponds pas.
Tu les as ghostées ?
Moi, il y a vraiment un point que je trouve compliqué. Déjà, c'est la difficulté de s'affirmer gender queer. On voit que c'est mal connu. Enfin, gender queer ou autre, ou neutro, ou que sais-je. Ou gender fluide, c'est vraiment pas simple. Et un autre problème qui est que, certes, quand je me suis inscrite, j'ai pu avoir accès à 52 critères de genre. Donc, ça, c'était assez cool. Mais par contre, quand je clique sur « qu'est-ce que vous cherchez ?», j'ai le droit de chercher qu'un homme ou une femme. Et là, c'est hyper dommage, parce que c'est pas binaire dans la manière dont je me définis, moi. Par contre, sur ce que je cherche, ça le redevient. Et donc, au final, on retombe dans un truc où vous allez voir toujours les mêmes profils.
Il faut mieux faire, quoi.
Par contre, il y a quand même une chose que j'aimerais dire. L'algorithme apprend à me connaître. Parce que j'ai dit que j'aimais bien hommes et femmes. Bah, voilà, plutôt pansexuel, donc a priori, pas de distinction de genre. Mais au début, l'application ne me proposait qu'un profil de meuf tous les 30 profils de mecs. Et là, quand même, il commence à piger que ça serait bien qu'il mixe un peu. Mais enfin, c'est très long. Et là, je commence à avoir des courbatures au pouce.
Tu as trouvé ton voisin ?
Oui, alors j'ai trouvé mon voisin. Donc, mon voisin d'en face. Voilà, je vais pas dire son nom. Petit coucou à lui, qui est très sympa. Par contre, 300 swipes pour arriver à trouver son voisin, ça fait suer quand même.
Comme quoi, l'algorithme de géologue, c'est beaucoup plus compliqué que ça, Tinder. Merci, Gorgaligo, de nous avoir branché sur ces subtilités. Bon, on arrive à la conclusion de ce podcast, déjà. On peut se demander si le désir est codable. Je n'ai pas encore la réponse, mais il y a d'autres émissions pour ça. Il y a la question de la prise de pouvoir, des caméras, des camsexes. Bon, regardez ça pour la spéciale sexe, Xavier. Ouais. Et puis du coup, ben, la question finale avec tes courbatures au doigt, c'est finalement, est-ce qu'on ne perd pas notre temps et est-ce qu'on ne consomme pas l'interaction pour elle-même ? Est-ce que tu n'as pas kiffé swiper pour le swipe plutôt que de faire des rencontres ou la potentialité de la rencontre ?
Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir joué à un jeu. Bon, là, je garde mes petites connexions. Je pense que je vais leur filer mon portable et va aller boire des bières.
C'est comme Street Fighter, quoi. T'as mal au pouce après une bonne partie.
Ah, oh, mais une bonne partie. Il y a le plaisir, quand même.
J'espère.
Moi, je trouve, juste avant d'enchaîner sur votre conclusion, parce que moi, j'ai connu effectivement l'ère du Minitel Rose, Téléphonie Rose, professionnellement, hein, bien sûr, en tout bien, tout honneur. Et à l'époque, c'était payant à la minute. Et c'est vrai que c'était vraiment rentre-dedans comme style. Et depuis qu'il y a eu ben justement Mythique en France, Match et tout le reste qui sont arrivés, il y a eu un autre mode où on prenait le temps, où il y avait peut-être plus de place entre guillemets à la poésie, ce qui changeait énormément de choses. On est passé à un autre type de frustration, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il y avait moins la précipitation et la rapidité. Ça, c'est quelque chose qui, au niveau historique, montre aussi pas mal de choses au niveau de l'évolution vis-à-vis de notre société, puisqu'on a maintenant à une technologie et à une économie de l'attention. Et étonnamment, et ben justement, ben on peut enfin prendre plus de temps pour faire un choix.
Mais ce que tu dis est super juste, et je ne sais pas si c'est un élément de conclusion ou si Anthony voudra rebondir là-dessus, mais il me semble que dans ces apps, et s'il y a des gens qui créent des apps, ça serait intéressant pour eux et elles de se pencher là-dessus, il y a un rapport au temps qui est hyper important, et il y a une application dont malheureusement je ne me rappelle pas le nom là présentement, mais qui en fait lance un décompte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as fait un match avec la personne, tu disposes d'une heure pour chatter, et après la connexion s'autodétruit entre guillemets.
C'est un super Snapchat, le Snapchat.
Oh, c'est un speed dating.
Ouais, mais du coup c'est intéressant parce que c'est intégré à l'app, et du coup il y a cette idée de hey, les gars, posez vos téléphones, rencontrez-vous dans la vraie vie. C'est un peu binaire ce truc, téléphone versus vraie vie, mais on se rend compte quand même qu'on y revient.
Bon, on va accélérer. La prochaine émission sera sur les bagnoles.
Wouh !
Bon, super. C'était CPU sur Radio FMR. C'est pour cette release, l'équipe était composée de Daskrit, Chief Writer Officer, Pia Pandelakis, Chief Tinder Officer, Anthony Mazur, Chief Matcher Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, ses extraits et ses sources sont disponibles sur le site cpu.pm et à l'exception des musiques, tout est en Creative Commons, donc vous pouvez commenter, partager et diffuser, c'est fait pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi, nous rendons l'antenne pour l'impromptu cultivé.